Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes ensemble ce matin pour te bénir, pour te louer, pour te rendre gloire, pour te célébrer un culte, pour écouter aussi ces nouvelles qui nous viennent de Doris, du Tchad, et puis aussi nous sommes, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Te prions pour que cette parole que tu nous as donnée puisse être vraiment ce guide sur notre route de tous les jours, afin que nous appliquions nos cœurs, Seigneur, à la sagesse, que nous appliquions nos cœurs à l'obéissance et puis aussi à l'amour. Merci parce que nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Croyons, Seigneur, que par ta parole, par ton Esprit Saint qui vit en nous, tu nous conduis en toutes choses, mais tu nous fais du bien et tu réjouis nos cœurs. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que vraiment tu es ce merveilleux Sauveur qui nous a retirés de la fosse, qui a effacé nos péchés, qui a fait de nous tes enfants. Et nous nous réjouissons vraiment d'être tes enfants. Merci pour ta parole ce matin. Amen. Voilà. Alors, Rachel a présenté ce mot, cette lettre, hein, qui fait partie du mot de l'avant, hein, c'est ça ? Qui est E, et cette lettre qui, effectivement, peut signifier bien des choses durant cette période de l'Avent, et notamment ces mots que tu as retenus, hein, c'est étoile et étranger. Voilà. Alors moi j'ai été je retiendrai plutôt un autre mot qui est, dont la première lettre va plutôt vers la fin de l'alphabet, et ce mot est serviteur. Je crois que nous sommes dans ce temps de l'Avent, et ce temps de l'Avent nous invite justement à préparer ce temps de Noël, cet accueil que nous allons, vivre du Sauveur qui est venu parmi nous dans ce monde, afin qu'il éclaire tout homme, et puis que surtout nous soyons sauvés, hein, de nos péchés. Donc c'est vrai, ce temps de l'Avent nous prépare à célébrer la venue de notre Sauveur. Et un prophète qui annonçait la venue de Jésus-Christ bien des années avant que Jésus ne vienne, c'est un prophète connu qui s'appelle donc Ésaïe. Et lui aussi, ce prophète, avait déjà quelque part préparé cette venue de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Et j'aimerais lire avec vous juste quelques versets au chapitre 42 d'Ésaïe, à partir du verset 1. Voilà ce que dit Ésaïe à propos justement du serviteur. Hein. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Voilà, jusqu'ici ma lecture. Alors, Ésaïe donc écrit sur ce serviteur, hein, ce véritable serviteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis plus loin, dans au chapitre 53, il décrit un peu ce serviteur. Ce serviteur, il dit, n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien à nous plaire. Voilà un peu le profil de ce serviteur. Je dirais, quel est aujourd'hui, dans notre société, dans notre vie de tous les jours, le serviteur qui attire les regards, ou le serviteur que l'on remarque? Et c'est vrai, lorsqu'on ouvre la télé, lorsqu'on écoute les médias ou qu'on voit autour de nous, les serviteurs sont plutôt discrets. On voit la personne au départ qui est importante. On voit celle qui, dans les séries télé par exemple, on voit le héros, dans dans d'autres émissions, on voit la personne principale et toutes les caméras se braque sur cette personne principale, alors que le serviteur, on ne le remarque pas, il est insignifiant. Alors, on connaît les VIP, vous savez ce que c'est, les VIP, ce sont les very importantes personnes, et c'est ceux-là qui, aujourd'hui, dans notre société, ont de l'importance. C'est vraiment ces personnes-là que l'on remarque, et puis que dans un certain sens on élève, qu'on vénère. Il y a je pense aux chanteurs par exemple, qui des jeunes ne vénèrent pas certains chanteurs. On ne voit qu'eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous regardons à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu dit dans 1 Samuel, au chapitre 16, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, effectivement, mais que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Alors, dans ces préparatifs de Noël et toutes ces lumières et tout ce qu'on peut entendre et voir, je crois que c'est bien de se préparer à Noël, à vivre Noël, et de peut-être ce matin réfléchir ensemble sur ces dispositions de cœur qui nous animent à l'approche de Noël. Alors c'est vrai que nous sommes dans une société où tout va très vite et on n'a pas forcément toujours le temps de réfléchir sur nos actions ou de s'arrêter à un moment donné, de se dire où c'est qu'on en est avec le Seigneur. Où c'est que j'en suis. Et je crois que c'est bien, à l'approche de Noël justement, puisqu'on prépare Noël avec ces dimanches de l'Avent, de réfléchir ensemble sur nos motivations. Et puis, de voir aussi cette pensée que le Seigneur nous a donnée de cette question de serviteur, de ce mot « serviteur » à partir de Jésus-Christ, qui, lui, est notre modèle, qui est notre maître, et vers lequel, bien sûr, nous devons regarder, et nous devons prendre modèle. Alors, je vous propose ce matin de lire dans l'Épître aux Philippiens, à partir du chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11, Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est un texte remarquable. Alors Philippiens écrit, vous le savez, je pense sans doute, cette lettre, Paul écrit cette lettre aux Philippiens, alors qu'il est en prison. Hein. Et on dit que Philippiens, c'est l'épître de la joie. Et d'ailleurs, dans plusieurs passages, hein, dans plusieurs versets de cette lettre, eh bien, on retrouve cette notion, hein, cette idée de la joie. Par exemple, au chapitre 4, verset 4, Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » C'est vrai que c'est un... Ce texte que nous avons lu est pourtant un texte remarquable. Remarquable parce qu'il élève Jésus-Christ. Hein ? Et puis, il nous montre aussi la manière dont il s'est abaissé jusqu'à prendre la place la plus humble, cette place de serviteur, cette place d'esclave même, pour nous apporter le salut. Dans ce texte que nous avons lu, moi j'ai relevé deux parties, deux sections. Il y a premièrement cette section un peu pratique, c'est une exhortation pratique, et puis il y a l'autre partie du texte qui est plutôt, je dirais, théologique, un peu plus théorique. Et il y a un verset, c'est le verset 4, qui fait le lien entre ces deux parties. Ayez en vous les sentiments de Christ. Cette transition, hein, entre cette exhortation pratique, de Paul aux Philippiens, hein, et puis cette description de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant ce matin de pouvoir revoir ces deux parties, mais peut-être pas dans l'ordre, mais plutôt en regardant cette description de notre Seigneur Jésus-Christ, assez rapidement hein, bien sûr, pour à partir de cette description, pouvoir décrypter de façon, meilleure cette première partie qui est une exhortation pratique. Voilà. Alors, le serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ, comme nous l'est dit à partir du verset 6, est donc ce d'essence divine. Jésus-Christ, qui est la deuxième personne de la Trinité, égal à Dieu, tout-puissant, souverainement élevé, glorieux, qui est présent partout, je dirais, et puis aussi qui connaît toutes choses. Ce Jésus-Christ que nous adorons, qui est saint et qui est vraiment, qui a tous ses attributs divins, n'a point regardé cette position qu'il occupait comme un privilège à défendre absolument, comme un privilège à garder. Hein? Mais à cause de notre monde perdu, à cause du péché qui est entré dans le monde, Jésus-Christ était prêt prendre cette forme de serviteur, cette forme de simple homme, pour venir servir. Et c'est ce que nous dit ce texte à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, hein, qu'il existait en forme de Dieu. Et que de Dieu qu'il est, hein, qu'il était, eh bien, il n'a pas regardé à cette position, mais qu'il a vu notre détresse et qu'il a pris cette forme de serviteur. Voilà. Et ensuite, effectivement, à partir des... Si on continue les versets 9 et 11, bien sûr, après, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné toute autorité afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ, lui qui est Dieu, a revêtu l'humanité. On dit qu'il s'est incarné et qu'il a pris la forme d'un homme, qu'il est devenu notre serviteur. Et il nous l'a démontré, premièrement parce que on le lit dans Luc, hein, je prends le Luc au chapitre 2 à partir du verset 7. Marie enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel. Alors Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde avec tous les honneurs des rois ou des personnes élevées. Jésus-Christ n'est pas venu avec, tout ce qu'on pourrait imaginer quand un nouveau-né dans la société bourgeoise naît. Ou, par exemple, je pense au futur, à la future naissance du prince Albert, hein, c'est ça, hein. Donc là, on en parle. Voilà, et puis ça va être la fête, et puis tous les médias vont le dire, hein, et puis vont l'annoncer, alors que là non, c'est pas le cas. Jésus-Christ vient dans un lieu vraiment très, très pauvre, puisqu'il naît dans une étable, et que ce ne sont pas les rois ou, les personnes en vue qui sont venues l'adorer, et que ce sont plutôt les bergers qui faisaient paître dans les champs leurs troupeaux. C'est à eux qu'est annoncée cette nouvelle de la naissance. Et puis, plus tard dans la vie de Jésus-Christ, eh bien, il y a un élément important, un événement important, dans lequel il va nous montrer aussi qu'il est serviteur. Je prends dans l'évangile de Jean, à partir au chapitre 13, à partir du verset 1, au moment de la Pâque. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà. Ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs qui a quitté le ciel pour, servir l'humanité, a vraiment manifesté combien il a servi, combien il était serviteur. Jusqu'au point de servir ses disciples, jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples. Et d'ailleurs, Jésus a été ce serviteur obéissant jusqu'à la mort de la croix, puisqu'il dit au moment dans le jardin de Gethsémané, au moment où il prie avec son père, il dit « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Ce que toi tu veux. Je pense que devant ce moment terrible, il est clair que Jésus a dû avoir une angoisse incroyable, mais malgré cette angoisse, malgré cette appréhension de la croix, eh bien, Jésus était ce serviteur obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant durant toute sa vie. Obéissant durant tout son ministère. Et je crois que c'est déjà une première disposition de cœur. Cette disposition de cœur d'être obéissant, d'être prêt à obéir, d'être prêt à servir. Et c'est à cela que nous sommes appelés, nous aussi, chrétiens, à être des serviteurs, bien sûr, mais surtout des serviteurs qui sont obéissants. Et puis, Jésus aussi a dit lui-même, dans Matthieu 20, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà, Jésus l'a dit lui-même. Je suis venu non pour être servi, alors que lui était servi dans le ciel, par les anges et toute son armée. Eh bien, lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour nous servir. Et je crois que si Jésus a servi, il a servi dans ses dispositions de cœur, avec ses sentiments qui nous sont rappelés, ces sentiments, ces dispositions de cœur qui étaient des sentiments d'humilité, ces vertus de l'humilité et de la douceur. Jésus dit lui-même « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Voilà. Donc, ce serviteur obéissant était aussi ce serviteur doux et humble de cœur. Et je crois que ce sont ces dispositions de cœur qui habitaient notre Seigneur Jésus-Christ, qui les habite encore, bien sûr, au moment où il est venu pour servir sur la terre, au moment où il a servi sur la terre, jusqu'à la mort sur la croix. L'humilité, la douceur, parce que je crois que la douceur est associée à l'humilité, et puis l'obéissance. Et si Paul commande aux Philippiens de revêtir les sentiments de Christ, eh bien, c'est parce que les Philippiens vont, je pense, expérimenter cette promesse d'Ésaïe, au chapitre 42, verset 1. « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui allons célébrer Noël, nous qui attendons ce beau jour et qui accueillons bien sûr notre Sauveur, eh bien, Seigneur nous rappelle ce matin que nous sommes aussi des serviteurs comme lui. Et que si nous sommes revêtus en tant que serviteurs de l'obéissance, de l'humilité, de la douceur, eh bien Dieu va prendre plaisir en nous. Et je crois qu'on fait un petit peu cette démarche inverse dans ces temps de Noël où tout est beau, tout est, grandiose, où tout est mis en avant. Et là, eh bien, on revient dans la simplicité de vie à l'approche de Noël. Dans la simplicité de, de ce que nous sommes en Christ. Et nous sommes appelés à être comme lui. Nous sommes appelés à regarder à lui. Et comme l'invite l'apôtre Paul, à revêtir ces sentiments qui habitaient le Seigneur Jésus. Alors c'est vrai que les Philippiens, l'église de Philippe était une église qui marchait plutôt bien, hein, puisque Paul se réjouit de cette église, et que malgré cela, bien il y a des petites différences entre Évodie et Saint-Tiche, hein, on le lit un peu plus loin. Mais ce que Paul désire pour les Philippiens, c'est qu'ils continuent à approfondir leur unité, approfondir leur amour les uns les autres et leur communion fraternelle. Hein? Et si nous revenons dans le texte, à partir du verset 1, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, hein, dans l'union d'esprit, s'il y a quelque compassion, rendez ma joie parfaite. Voilà. Paul avait cette vision pour l'église de Philippe, d'une église qui continue à progresser dans la foi, dans l'amour de Christ. Et c'est vrai que dans cette église, il y avait de l'amour, dans cette église, il y avait de l'encouragement, dans cette église, il y avait de la communion, de la compassion, de la miséricorde. Et Paul était comblé de joie, en voyant aussi la bonne entente de cette église, des chrétiens de Philippe. Et il veut être comblé en les voyant dans une même pensée, en les voyant dans un même amour. C'est pourquoi il leur commande de s'accorder ensemble et d'accorder aussi leur façon de voir. Il leur commande d'aspirer au même but, de travailler avec un seul cœur, une seule âme et une seule pensée, ce texte-là. Alors, voilà, comment cela était possible d'aller plus loin avec le Seigneur dans la communion fraternelle, dans, je veux dire, le service les uns pour les autres, en ayant des sentiments qui étaient en Christ, en revêtant l'humilité, la douceur, l'obéissance. Et d'ailleurs, dans ce texte, il y a quelque chose qui est sous-jacent et qui, je dirais, transparaît, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Hein. S'il n'y a pas, je veux dire, l'amour nous conduit à être humble. L'amour nous conduit à être doux. L'amour nous conduit à être rempli d'obéissance. Et Seigneur désire que sa joie soit parfaite lorsqu'il voit nos églises. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes invités à, comme le dit l'apôtre Paul, hein, à ne point regarder l'autre comme étant inférieur, à regarder l'autre comme étant notre serviteur, mais au contraire, à laisser tomber tout esprit de rivalité, à agir en vue de la satisfaction de non pas de nos désirs particuliers, mais de la satisfaction du bien commun, de l'Église. Paul nous invite à considérer, invite l'Église de Philippe à considérer son frère comme meilleur, plus important que lui-même. Il invite aussi à reconnaître la supériorité des autres. Hein? À ne point penser toujours qu'à nos propres intérêts personnels ou à l'avantage qu'on pourrait tirer des autres, mais au contraire, à désirer le bien pour l'autre, à désirer le bien pour mon frère, pour ma sœur dans l'Église. Et puis, être, je dirais, réjoui des progrès que mon frère ou ma sœur dans l'Église fait. Voilà ce que je voudrais dire ce matin par rapport à ce texte et puis par rapport aussi à ce mot de serviteur qui me semble important pour préparer, cette fête de Noël. Et non pas qu'on soit dans la course et puis qu'on arrive à ce jour de Noël et puis ça y est, on fait la fête de Noël, mais qu'au contraire, ce temps de l'Avent soit un temps qui nous aide vraiment à réfléchir sur nos dispositions de cœur et puis à regarder le Seigneur comme notre modèle et puis à nous revêtir de ces sentiments qui habitaient Christ, qui habitent en Christ, afin que nous soyons vraiment nous aussi des serviteurs. Des serviteurs, bien sûr, dans l'Église, hein, les uns les autres, et puis aussi dans là où le Seigneur nous a placés, que ce soit au travail, dans notre famille, ou bien parmi nos amis. Que nous ayons cette disposition de cœur à l'approche de Noël. Et c'est là mon souhait pour votre Église de Darnay, et puis pour chacun de vous, afin que le Seigneur soit vraiment glorifié dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous vivons les uns avec les autres. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Amen.
Amen.